Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort aujourd'hui. J'en avais déjà parlé à radio, que je trouvais que, à tout le monde en parle, Danny Turcotte ne servait plus à rien. Et puis, je n'avais pas élaboré plus, tu sais. Puis aujourd'hui, Hugo Dumas, dans La Presse, fait un article juste sur ça. Et puis, il nomme toutes les gags qui sont tombés à plat. Puis le gag sur Camara, là, dimanche dernier, où est-ce qu'il a dit « Hey, tu vas-tu continuer à prendre un cellulaire quand tu... quand » tu... Bref, tu sais, il va vraiment là, dans la virgule là, en train de dire « Ah, il a fait tel gag, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. » Puis là, il dit que l'émission a pris une tournure très, très affaire publique. Puis il finit avec une toute petite phrase en disant c'est là qu'il voit que... C'est là qu'on se rend compte que quand il n'y a pas de public aussi, c'est tough. Or, la réalité, c'est que c'est la seule raison pour laquelle, tout à coup, Danny Turcotte cherche ses repères, puis que, puis je suis le premier à le dire, que finalement, son rôle est inutile. C'est-à-dire qu'il ne peut pas puncher, il ne peut pas... c'est juste parce qu'il n'y a pas de public. Alors, il y a beaucoup d'affaires intéressantes là-dedans. La première, c'est de voir que tu as beau couvrir quelque chose pendant des années et des années, tu ne comprends quand même pas c'est comment que ça marche. Moi, j'ai toujours dit, si tu es journaliste, puis que tu couvres l'actualité municipale depuis 30 ans, mais que tu n'as jamais été toi-même quelqu'un qui est un acteur de l'actualité municipale, puis que tu t'es jamais présenté une élection, puis tu ne sais pas comment ça marche un caucus parce que tu n'es pas là, bien, tu ne pourras jamais savoir vraiment comment ça marche. Je suis désolé, là. Il y a des coulisses là-dedans. C'est pas comme une game de hockey. Une game de hockey, il n'y a pas... Ce qui se dit dans la chambre des joueurs, ça peut être intéressant pour voir l'impact entre ça puis la game. Mais la game est ouverte, tu vois tout. Tu vois tout. Quand tu parles de plein d'autres domaines, là, ce qui se passe en coulisses... C'est tout aussi important parce que ça détermine qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passera pas. C'est pas tout ce qui est visible. Pour ça, ça prend ce qu'on appelle de l'expertise. Être un expert, c'est pas être le meilleur. Être un expert, c'est comprendre comment ça marche. Fait que quand tu lis Hugo Dumas aujourd'hui, ben tu réalises que le gars, malgré toutes ces années-là, c'est pas un expert de télévision. Il connaît pas plus ça que si ma mère avait regardé Tout le monde en parle puis elle aurait dit « Danny Turcotte, ses gags sont plates. » C'est la même affaire. Puis quand tu vois qu'à la fin de son article, c'est là qu'il dit finalement, ouais, c'est vrai que pas de public, ça aide pas. Écoutez, Danny Turcotte, ça fait plus de 10 ans que sa spécialité, c'est de puncher dans tous les contextes, OK? Que ce soit une entrevue sérieuse ou whatever. Qui s'en plaignait jusqu'à cette année? Personne. Personne disait, hey, il est plate ou ça. Alors, des fois, sa joke est ratée. Mais d'enlever la capacité d'une intervention qui veut faire rire d'un contexte dans lequel il n'y a même plus de public, il y a juste du monde, 2, 3, 4 personnes qui sont là, bien, c'est juste pas comprendre comment ça marche, faire des jokes. C'est juste pas comprendre ça. Et je veux dire, moi, dans le temps, je me souviens, il y avait une émission qui s'appelait « Les démons du midi » avec Gilles Latulippe puis Suzanne Lapointe. Puis ils faisaient des sketchs, puis ils invitaient des jeunes humoristes. Et quand moi, j'étais gérant, certains de mes clients, dont Maxime Martin, allaient là. Puis ils allaient là reculons à mort en se disant « C'est tellement quétaine, puis on va faire des sketchs. » Puis ils vont mettre une perruque, puis ça va être du burlesque à la mort. Puis il avait raison. Sauf que, tu sais, on commençait, on se disait tabarouette pour le peu de monde qui nous voit à TV. Ça fait que moi, j'essayais de les convaincre, allez-y, tu sais. Mais effectivement, à chaque fois, ça servait à rien à part faire rire deux autres. Parce que tu joues là, devant un paquet de chaises roulantes à Place Laurier, là. Puis que, je veux dire, chaises roulantes, c'est même pas le bon terme, là, en voulant dire. C'était tous des vieux qui étaient là. Ça se filmait genre à 11h le matin. Qui tu penses qui était là? Ça fait que c'est ça. Littéralement, t'as aucune chance. T'as aucune chance. C'est spectaculaire de voir quelqu'un qui est payé, qui passe prime time dans un journal, puis qui t'explique ce qui a entièrement raison, c'est-à-dire que Danny Turcotte n'est pas pantoute dans ses souliers comme avant, puis qui, selon moi, ce que je dis, c'est qu'il sert à rien, mais il faut comprendre pourquoi. Puis c'est pas en nommant les gags qui n'ont pas marché que ça explique pourquoi. Ça explique pourquoi à la toute fin, alors que ça devrait être le début de son article, ça devrait être de dire, regardez comment, quand on change le contexte pour un artiste, comme pour n'importe qui, si t'es comptable dans un bureau, puis tout à coup, on te fait travailler sur une autre affaire que tu connais pas, ou qu'on te demande tout à coup de dire, regarde, finalement, tu vas rentrer à minuit maintenant jusqu'à 4 heures le matin. Bref, si on change quelque chose dans ton environnement de travail qui a une incidence directe sur ta capacité de performer, bien, ça s'appelle le contexte. Quand le contexte change, tu peux pas, après ça, juste pointer du doigt en disant « Ah, regarde tes résultats comme ils sont poches. » C'est directement relié au fait qu'il n'y a pas de public. C'est extrêmement difficile, la job à Danny Turcotte. Il est supposé trouver toujours le bon mot, le bon gag. Je veux dire, C'est une expertise d'être capable de faire des jokes dans un contexte très sérieux. OK, il y a du monde, là, que tu les mets, mettons, dans un meeting bien sérieux là, avec tous des hommes d'affaires, puis ils vont réussir à faire rire tout le monde. Ils ont cette capacité-là de faire rire dans des contextes difficiles. Puis là, évidemment, je vous parle en privé, là. C'est que tu prends ce contexte-là qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui est donné à Danny Turcotte, je pense, puis tu y mets des caméras devant tout le monde, où tout le monde peut faire son petit jugement, puis en plus, tu ne mets pas de public, puis tu dis, toi, il faudrait que tu sois drôle. Non, mais qui comprend pas à quel point la mission a changé totalement? Ça fait que, comprenez-vous, je suis le premier à avoir dit, ce gars-là sert à rien. Mais pas il sert à rien dans vie, ou il servait à rien depuis le début. Il sert à rien parce que le contexte a énormément changé. Alors, je trouve ça fascinant de voir quelqu'un qui nous fait un beau constat, sans pas une once d'expertise, pour expliquer c'est quoi la réalité de ça. C'est juste du mémérage. Fantastique. Puis ça veut pas dire que je trouve qu'Hugo Dumas est poche en général. Pas du tout. Mais couvrir la TV, là, ce sera le fun que ça soit quelqu'un qui est capable d'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe l'autre bord. Ce qu'on voit tout le temps, quand il nous explique qu'est-ce qu'il y avait en coulisses, c'est le potinage. Ça a l'air que lui aurait dit ça, puis ça a l'air que elle. Ouais, mais comment ça marche? Moi, aujourd'hui, là, c'était une belle occasion ratée, en tout cas, moi, je la raterai pas, d'expliquer qu'est-ce qui fait que c'est de même. Pourquoi c'est de même? Pourquoi Danny Turcotte, qu'effectivement, le constat, je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi c'est de même? Ben, ça fait que pourquoi je vous parle de ça? C'est pas parce que je veux taper sa noix à Hugo Dumas, là, que je trouve bien correct, là. Et lui-même aussi a le droit, là, de pas nécessairement viser, tirer 100% du temps. Et moi aussi, on se comprend-tu que... Et aussitôt qu'à partir du moment où tu te prononces sur des choses, t'es loin d'avoir toujours raison. Vous connaissez ma phrase, quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Mais aujourd'hui, c'est ça que j'ai à vous raconter. Mais c'est parce que ça m'amène au point général, qui est ce que j'appelle le pouvoir du contexte. Et l'expression n'est pas de moi, elle est de Malcolm Gladwell, qui a écrit plusieurs livres, qui est un journaliste américain, qui avant faisait du journalisme scientifique. Donc lui, sa job, c'était justement... De parler des avancées, et entre autres dans le domaine des virus. C'est spécial, hein? Et puis après, il s'est converti, parce que bon, il a appris un paquet d'affaires sur le tas, puis par observation, puis il s'est converti en écrivain, en auteur de livres qui ont comme malin plaisir, c'est très philosophique dans le fond, d'expliquer pourquoi les choses sont ainsi faites. Puis qu'est-ce qui fait que des fois, lui, sa spécialité, c'est vraiment ce qu'on appelle les biais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on va penser que c'est A, puis dans la vraie vie, c'est B? J'ai lu presque tous ses livres. Puis dans son livre le plus populaire, qui a été son premier livre qui a pété, ça s'appelle « Le point de bascule ». Dans « Le point de bascule », il explique, il y a deux chapitres qui s'appellent « Le pouvoir du contexte ». Puis son exemple, c'est l'exemple classique qu'on connaît, c'était le fameux combat qu'il y a eu entre Coke et Pepsi dans les années 80, où est-ce qu'à un moment donné, Pepsi gagnait tout le temps des parts de marché, puis un jour, Coke a changé sa formule. Puis il avait dit à leurs actionnaires, quand ils ont dit « OK, on va changer finalement la recette du Coke, c'est passé date, ça fait à peu près 100 ans que ça existe », il avait dit, on peut pas se tromper parce qu'on a fait 2000 tests où il y avait des gens qui disaient, je préfère lui qu'à lui. Puis ça a été un flop total parce que ça, justement, ça ne tenait pas compte du contexte. C'est-à-dire que de un, la marque Coca-Cola pour les Américains, c'était quelque chose que tu touches pas. C'était comme dire, hey, on va rénover la Statue de la Liberté, on va y enlever la couronne, puis on va mettre ça au goût du jour. Il y avait quelque chose de symbolique dans le Coke pour la clientèle américaine. Puis de deux, c'est que, et ça, c'est fascinant, c'est qu'il dit, quand est-ce que tu prends du coke dans un laboratoire avec un gars avec un sarrau en arrière d'une fenêtre, puis avec deux petites gorgées, les yeux bandés, ça marche pas. Ça fait qu'il y a personne qui s'arrête pour prendre une canette de Coca-Cola dans ces conditions-là. C'est que ça altère exactement, non seulement le goût, mais l'expérience au final. C'est-à-dire que si t'es sur une terrasse avec des amis puis tu bois une canette de coke, écoutez, combien de fois je suis allé voir des films, parce que je vais en voir tellement, puis que je sors des fois avant la fin, ça peut arriver, puis que je me dis moi-même, je peux pas juger si le film, il est bon ou il est pas bon. Ça se peut très bien que je suis rentré ici, stressé, fâché de quelque chose, triste de je sais pas quoi, bref, dans un état d'esprit, parce qu'on est des personnes, hein, c'est pas des robots qui s'en vont voir des films. Quand est-ce que j'ai peut-être vu un film que j'ai trouvé moyen puis que si je le réécoutais, je le trouverais fantastique? C'est rare que je donne une deuxième chance à un film que j'ai pas beaucoup aimé, mais ça peut arriver. Bien, ça s'appelle le pouvoir du contexte. Il y a des contextes qui font en sorte que tout à coup, on est comme vraiment là, puis il y a des contextes dans lesquels ça ne nous permet pas de performer. L'exemple de Danny Turcotte, moi, je trouve, c'est extrêmement facile d'y lancer une roche en disant franchement, en tout cas, lui, bébé. Puis la réalité, c'est que son contexte a complètement changé. Beaucoup moins pour l'animateur. Pourquoi? Voulez-vous encore, on va parler. Pourquoi cet impact-là ne serait pas le même, à vrai dire, n'est pas le même avec Guilla? Parce que Guilla n'engage pas une conversation avec ses invités. Ça n'a jamais été le cas. Je suis allé, moi. Avril 2007, j'étais à Tout le monde en parle. Puis ultimement, j'étais quasiment déçu, entre guillemets, que finalement, si tu sais quoi répondre aux questions de Guy, ben tu peux tout le temps bien t'en tirer. Parce qu'après une question, tu réponds ce que tu veux, puis voilà une autre question. Finalement, le débat n'existe pas. Puis c'est correct, c'est un style parmi d'autres, moi, ça ne me cause aucun problème. Sauf que comprenez-vous que pour Guy, le changement de contexte, ça n'a pas été une grosse affaire. Parce que lui, anyway, il drop une question qui peut venir de lui ou d'un writer. Et puis la personne, elle répond ce qu'elle veut. Bon, il y a une mini-répartie, s'il y a un gag à faire. Puis après ça, donc son mandat à lui, là, excusez-moi, mais c'est bien plus simple, puis il serait le premier à le reconnaître, que le mandat de Danny, qui doit improviser, c'est pas une petite différence, sur tout ce qui se fait. Puis monsieur, en plus, on s'attend qu'il soit drôle, pas de public. Non, mais c'est ça la vraie réalité. Le vrai point, c'est ça. C'est pas juste de dire, en tout cas, on trouve qu'il est plate. C'est, je veux dire, OK, tout le monde peut le constater, tu sais. Ça fait que, dans la vie de tous les jours, c'est plein d'affaires de même. C'est plein de monde qu'on va dire, en tout cas, lui, il est plus bon, ou il était bon, ou whatever. Puis on réalise pas que le contexte a changé. Qu'on les attentes ont changé, par exemple. C'est tough, là. Il y a des gens qui sont très, très bons pour changer de chapeau, là, puis tu virer sur un 10 cents. D'autres pour qui, ça marche pas de même. Dans les débats, c'est la même affaire. Il y a plein de monde qui ont d'excellentes réponses dans un débat, mais qui n'ont pas une dégaine rapide. Je connais plein de monde là, qui sont très à niveau, avec qui tu peux jaser de tout, qui ont tout le temps quelque chose d'intéressant à répondre, qui sont d'accord ou pas, mais qui ne sont pas du genre, en un claquement de doigts, je peux vraiment aller tout le temps te répondre quelque chose, tout, ce que j'appelle avoir de la dégaine. Ou de la répartie, mais de la répartie, justement. Exemple, ce qu'on appelle une conversation épistolaire, c'est-à-dire deux personnes qui s'échangent des lettres. Ah ben là, c'est toute une autre affaire. Tu reçois une lettre, tu la lis, tu prends le temps d'écrire la tienne, tu la corriges, tu la renvoies, ce qui existait dans le temps. Ça fait que ces échanges-là, comprends-tu, quand même que tu avais des habiletés à te revirer sur un 10 cents ou pas, c'était complètement accessoire. Sauf que, si on continue sur l'exemple que je vous parle aujourd'hui, si, admettons, moi, je vois un échange entre deux personnes qui s'écrivent des lettres, puis que je trouve tout le temps que les deux, c'est comme « Hey, c'est vraiment bon telle affaire », puis qu'après, je les mets en live, ça se peut que je dise « Ouais, ben tout à coup, m'a dire, lui, je trouve qu'il en a vraiment perdu, hein, il est plus aussi bon qu'avant. Moi, je trouvais qu'avant, il avait des bonnes réponses. Là, je le trouve, il est hésitant. Ouais, ça fait dur. Hein, il est plus aussi bon que je pensais. » Ben non. Tu l'as changé de contexte. T'as pris un contexte dans lequel il était excellent, puis tout à coup, tu lui demandes que là, il n'a plus le temps de réflexion. Ce que l'autre, peut-être, n'a pas besoin, que lui, il lit la lettre, puis il pourrait répondre live tout de suite. C'est tout, là. C'est point barre. C'est niaiseux de main. Ça fait que l'idée, moi, c'est pas de lancer des roches non plus, là. Je vous le répète, absolument rien contre Hugo Dumas. Chic type, j'en suis convaincu. Sauf que ça démontre qu'à un moment donné, tu peux être... Ça démontre deux choses. Ça démontre que tu peux être très proche de quelque chose sans jamais avoir vraiment les rouages de ce qu'il y en a. Écoutez, moi, j'en ai vu des critiques. Là. J'étais gérant d'humoriste, je peux-tu vous dire? J'en ai vu, j'en ai connu, etc. Je veux dire, j'ai vu des critiques d'humour qui nous disaient ça rit ou ça pas rit, ou soit qui nous parlaient de la couleur des rideaux, puis que la mise en scène était belle, puis qu'au final, tu faisais ça servir à quoi? Parce que ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser. Ça sert à quoi, critiquer les arts? Ça sert à quoi? Bien, ça sert à aiguiller le lecteur. Je veux dire, c'est pas gratuit. Sinon, bon, on pourrait critiquer ce qu'on veut. Tiens, voici un tapis, je vais faire un article là-dessus. Ça sert à aiguiller le lecteur. C'est qu'il faut qu'à quelque part, tu puisses dire que moi, voici ce que je pense. Puis moi, je suis très d'accord avec l'idée de critiquer, puis que ce soit très personnel. Mais il faut que ça aiguille le lecteur. Il faut qu'à quelque part, tu puisses dire, je te recommande d'aller voir ça pour les raisons suivantes. Je recommande pas d'aller voir ça pour les raisons suivantes. Et là, après ça, bien évidemment, quand c'est une mauvaise critique, c'est plate. Puis quand c'est une bonne critique, t'es content. Chacun son tour. Mais sauf que si c'est pas le cas, si ça aiguille personne, si c'est comme « Ah, moi, j'ai regardé ça, puis c'est ça, j'ai vu ça, comme toi, comme mon voisin. » Voilà. Ouais, à un moment donné, C'est que j'ai toujours trouvé ça bizarre, la critique télévisuelle, parce qu'en plus, c'est gratuit. Ça fait que quand même, quelqu'un dit « Regarde pas cette émission-là, c'est pas comme « Va pas voir tel show, dépense pas 40$. » Ça fait que la critique TV, c'est parce que la TV, c'est une référence commune, je suppose, je sais pas trop. Mais c'est correct, sauf autre chose, pourquoi pas. Mais ça sera le fun que ça explique comment ça marche. Que ça... C'est ça. Mais bref, c'est mon point. Puis pour ce qui est du contexte, ben je vais vous dire de quoi... Si on met ça dans le domaine du dating, si vous saviez le nombre de premières dates qui ne se virent pas en deuxième date juste à cause du contexte, c'est pour ça que je dis tout le temps que je trouve ça beaucoup plus triste une première date qui ne fera pas une deuxième date qu'un divorce après 10 ans. Parce que un divorce après 10 ans, au lieu de dire « Ah, c'est plate », on devrait dire « Félicitations ». C'est-à-dire que tu as eu amplement le temps de mûrir ta décision, puis si tu as décidé après 10 ans de te divorcer, c'est sûr que tu as raison. Mais après une date, ce qui fait que ça passe ou ça casse, 50 % du temps minimum, c'est le contexte. Si le contexte, écoute. Puis après ça, si tu es habile à être... si tu es bon dans ce que moi j'appelle la première et la deuxième vitesse, mais tu comprends que le contexte y joue, si la musique est forte, etc. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Là. C'est pas tout le monde qui sait quoi faire. Une première date dans une bibliothèque puis dans une discothèque, je peux te dire que c'est pas pareil. Mais il y a des gens qui vont faire la même affaire. Alors, le contexte, c'est tellement important dans tout. Si vous allez nerveux à une première entrevue pour une job, pensez-vous vraiment que vous avez plus... Regardez bien ça, j'ai un de mes amis récemment, il a démissionné de sa job. Il était là depuis environ 2 ans, il a fait « Écoute, c'est insupportable, d'ailleurs, il n'est pas le seul, ça partait là, comme des moineaux. » Et puis, évidemment, il n'est pas indépendant de fortune, ça fait qu'il se dit « J'ai un coussin pendant quelques mois. » Il dit « Bon, ben là, il est rendu déjà avec... » 3 offres fermes qui sont rentrées une semaine après son départ. 3 offres. Il travaille dans le numérique. Ça fait que j'avais fait un commentaire avant même qu'il parte. Puis j'avais dit, écoute, je ne sais pas si c'est garant de quoi que ce soit, mais il reste que tu as fait beaucoup d'entrevues pendant que tu étais à job, puis il n'est jamais rien arrivé. Mais là, je pense que ce qui va arriver aussi, c'est que tu vas être beaucoup meilleur dans tes entrevues. C'est-à-dire que tu vas être libéré d'un poids, tu es écœuré de travailler là, tu vas être libre comme l'air, tu peux rentrer chez vous, voir ta femme, faire à manger, avoir du temps, monter ton CV, faire des demandes. Ta job, ça va être chercher une job. Ce ne sera pas à travers ta job, tu comprends? Bien, regardez ce qui est arrivé. Paf! 3 offres, boum. Puis il me l'a confirmé, il dit, t'avais raison, il dit, je suis bien meilleur en entrevue. En entrevue, je suis tout là. C'est comme si un joueur de hockey était aussi un gars qui avait une compagnie de paysagement, puis 40 heures par semaine, il tondait le gazon, puis il plantait des fleurs. Bien, il ne pourra pas être à niveau avec du monde qui font juste ça dans la vie, de haut calibre. C'est-à-dire qu'ironiquement, quand on est en mode de trouver une job, ben c'est comme la priorité. Donc, c'est une job en soi. C'est-à-dire que ça prend de l'air autour, mais c'est rare qu'on est capable de le faire. Mais lui, il a fait comme j'en ai par-dessus le casque, il a tiré la plug. Alors, le contexte dans lequel il a passé ses entrevues était très, très différent que le contexte de quelqu'un qui est comme, ah, OK, pendant l'heure du lunch, je peux te rencontrer, il ne faut pas que le boss le sache. Rien de ça est pareil. Ça fait que le contexte, c'est tout le temps hyper, hyper, hyper important. Voilà. Et sur ce, à demain.